Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria-Brown, Aliette Ovine et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Déborah Dagobert.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Notre exploration de l'univers méconnu du bâtiment se poursuit. Deuxième épisode de notre série consacrée à l'économie de la construction. Hier, nous avons observé les techniques d'extraction du sable, premier ingrédient du béton. Une industrie qui répond à l'explosion de la demande dans les pays émergents, menaçant les côtes comme les écosystèmes. À présent, nous allons nous infiltrer dans les chantiers de l'Hexagone, de l'après-guerre à nos jours. Un monde caractérisé par une main-d'œuvre flexible, souvent immigrée et un grand nombre de travailleurs non déclarés. Et cela alors que le secteur connaît régulièrement des périodes de forte croissance. Alors comment expliquer la permanence d'une telle précarité dans le BTP ? C'est la question qui nous intéresse aujourd'hui. Vous écoutez France Culture, bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous partons aujourd'hui à la rencontre des ouvriers du bâtiment en compagnie de Manuela Martini, historienne, enseignante à l'université Lyon 2 et auteure de cet ouvrage « Bâtiment en famille, migration et petites entreprises en banlieue parisienne au XXe siècle » paru aux éditions du CNRS en 2016. En compagnie également de Nicolas Jounin en duplex de Dijon, sociologue et auteur de « Chantier interdit au public, enquête parmi les travailleurs de la construction » publié à La Découverte. À 14h50, on retrouvera Xavier Martinet qui nous donnera comme chaque jour des nouvelles de l'écho.
Par les sentiers de la montagne enneigée, ils étaient nombreux, les Italiens qui abandonnaient leur pays pour chercher en France à la fois du travail et le pain de chaque jour. Parallèlement à l'immigration organisée, les clandestins se présentaient à la frontière en si grand nombre qu'un centre d'accueil avait dû être créé à Montmélian. Là, l'immigrant trouvait pour le préserver des louches combinaisons d'embauche, un office qui se chargeait de répartir les travailleurs. Heureuse initiative qui assurait à l'immigrant comme à son employeur une plus exacte sécurité. Un nouveau projet d'accord est intervenu entre les gouvernements italiens et français qui permettra à 200 000 travailleurs italiens de se rendre en France.
Manuela Martini et Nicolas Jounin, bonjour.
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 Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Alors, on vient d'entendre une archive du 5 décembre 1946. Nous sommes donc au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Et la période qui s'ouvre, Manuela Martini, celle des 30 Glorieuses, va être marquée évidemment par un besoin de main-d'œuvre considérable, notamment dans le bâtiment.
Absolument, le bâtiment est un secteur donc qui a besoin d'une main-d'œuvre donc à la fois qualifiée et non qualifiée. Et donc la période donc des 30 Glorieuses, est effectivement une période de grande expansion hein, d'un point de vue des effectifs hein, du bâtiment. On passe entre 1949, donc quelques années après hein, ces archives, donc d'un million environ. De salariés et non salariés du bâtiment, donc d'effectifs globaux, à 2 millions hein, en 1970. Donc on double.
On a un quasi doublement de ces effectifs en une vingtaine d'années. Et c'est aussi un moment où la main-d'œuvre étrangère va devenir progressivement massive, Manuela Martini.
Oui, alors c'est sûr que c'est cette période qui voit la croissance en termes de composition, c'est-à-dire la part des immigrés augmente, passe de 20% après la Deuxième Guerre mondiale à 30% hein, des étrangers dans les secteurs du bâtiment, avec une diversification aussi qui est significative, importante par rapport au flux migratoire qui était déjà important avant la guerre. Hein. Il faut le rappeler, donc dans les bâtiments, c'est dès le début du XXe siècle que les bâtiments en fait connaissent cette diversification en termes d'origine et de nationalité qui le caractérise en fait pendant tout le XXe siècle.
Alors on va y venir, mais d'abord un mot, Nicolas Jounin, sur le fait qu'aujourd'hui en France, la forte proportion de population immigrée dans le secteur du bâtiment, c'est un héritage des 30 Glorieuses et de cette diversification au moment des 30 Glorieuses.
Je pense que le modèle est beaucoup plus ancien, puisque là, on se fixe sur des frontières nationales qui n'avaient pas forcément sens à toutes les époques. Je sais qu'hier, vous avez cité Martin Nadeau, qui était donc un député, mais qui était aussi un ancien ouvrier du bâtiment, et qui raconte dans Léonard Masson de la Creuse comment lui et ses compagnons venaient très fréquemment de la Creuse, justement, sur des chantiers lyonnais ou parisiens, avant éventuellement de retourner aux travaux des champs.
On est alors au milieu du 19e siècle.
Tout à fait. Et comment on est ces travailleurs-là étaient utilisés d'une certaine manière. On parlerait aujourd'hui de dumping social, pour ce dumping social. Comment en même temps il faisait l'objet de remarques ou de préjugés racistes, voire de revendications par des députés parisiens, d'une préférence parisienne, comme on parlerait aujourd'hui de préférence nationale. Donc je pense que la dynamique est plus ancienne, même si effectivement c'est plutôt du 20e siècle, que du début du 20e siècle, que date l'arrivée de d'autres nationalités.
Il faut préciser en effet, Emmanuel Amartini, que ce sont d'abord à des migrations internes que l'on assiste, effectivement des ouvriers venus des campagnes, dès le 19e siècle.
Absolument. En fait, c'est l'un des grands flux migratoires de migration interne. Il y a évidemment aussi une migration qui vient... Là, on a mentionné la migration de la Creuse. Il y a aussi des flux migratoires qui viennent d'Auvergne, de Savoie, et qui, en effet, convergent vers les grandes villes. Et Lyon, Marseille et surtout Paris, évidemment, à partir de la... Enfin, Paris en particulier... pendant les travaux haussmanniens, mais même bien avant. Hein. Déjà, le château de Versailles a été construit par des Creusois. Donc, on est déjà donc, dans des courants flux migratoires saisonniers. Hein. C'est ça, en fait, aussi, l'une des caractéristiques de ces flux, donc le fait en fait, d'être complémentaire par rapport au travail... des champs, hein, donc il s'agit des migrants qui viennent des campagnes, des collines, des montagnes, et qui donc pendant quelques années font des campagnes, donc en ville.
Et alors, comme on a pu l'entendre dans l'archive que l'on a entendu au début de cette émission, cette archive de 1946, lorsque les migrations internes sont progressivement remplacées par des migrations internationales, ce sont d'abord les Italiens qui sont les migrants les plus nombreux, et cela dès le début du XXe siècle, Emmanuel Amartini.
Oui, en fait, ce que j'essaye de démontrer dans mon livre, c'est cette coprésence. En fait, dans un premier temps, il y a une cohabitation, une coexistence, coprésence en fait des migrants de l'intérieur, donc à partir jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait les Creusois, les Limousins, les Auvergnats sont sous les chantiers avec des migrants qu'on appelle piémontais. En fait, il y a une connotation régionale forte, connotation régionale aussi de l'émigration qui vient du nord de l'Italie, donc on traverse en effet les Alpes d'abord à pied, comme on dit, mais en fait avec des moyens de transport qui sont variés. Ensuite, grâce à la diffusion du chemin de fer, grâce donc à cette extrêmement rapide diffusion du chemin de fer avec donc les trains.
Hein. Et ce n'est pas spécifique à la France que vous dites dans votre article, c'est qu'à Berlin, par exemple, l'immigration italienne dans le secteur du bâtiment remonte au XVIIIe siècle.
Absolument. Et en fait, c'est un phénomène qui concerne l'Europe. La migration italienne, qui est spectaculaire, hein, commence à partir des derniers quarts hein, du XIXe siècle, et donc concerne les grands pays européens et aussi les grands pays du monde occidental. Donc on part aussi vers les États-Unis, évidemment, et donc et souvent dans les secteurs du bâtiment, on trouve des débouchés. Hein. C'est l'un des secteurs où les barrières d'accès sont les moins insurmontables pour les migrants. Donc on peut partir avec un savoir-faire qui est un savoir-faire lié à certains métiers, de l'économie agroforestière, par exemple. Donc on sait couper du bois, on sait donc du coup... travailler en équipe, hein, et c'est là que pour les bâtiments, ces travailleurs-là deviennent précieux.
Et à partir de la seconde moitié du XXe siècle, à côté des Italiens, arriveront également des migrants algériens, tunisiens, portugais, polonais. Je vous propose d'écouter Francis Bouygues, le fondateur du groupe de BTP Bouygues. C'était en 1969.
Les étrangers sont des gens qui ont beaucoup de qualités. Et ils ont une qualité fondamentale pour moi, employeur, qui a toute ma sympathie. C'est que s'ils viennent chez nous, c'est pour travailler. Et à la base, ce sont des gens très courageux. Par contre, ils ne parlent pas notre langue, ils ne sont pas tellement qualifiés, et puis ils viennent avec une idée en tête, c'est d'amasser un pécule, et nous quitter quand ils auront un pécule suffisant. Donc, ça n'est pas une main-d'œuvre stable, et c'est une main-d'œuvre que nous ne pouvons pas former, et nous n'avons pas l'espoir que si nous la formons, nous pourrons la conserver.
Voilà, que vous inspire ces propos de Francis Bouygues, Emmanuela Martini?
Oui, alors Francis Bouygues, c'est l'un des grands patrons hein, de l'industrie du bâtiment en France. Donc il a une vision qu'on peut dire qui résume un modèle hein, qui est celui du travailleur invité, non qualifié, qui justement reste un temps et repart. Or, le bâtiment est un secteur beaucoup plus diversifié aussi en termes de, structure industrielle et de qualification de la main-d'œuvre. En fait, c'est ces ouvriers qui migrants, y compris les migrants, qui arrivent massivement à partir de la fin du 19e siècle et donc après les deux guerres en particulier, à cause du besoin de main-d'œuvre accrue, sont des ouvriers qui acquièrent rapidement en fait une qualification. Et donc certains d'entre eux en fait commencent à créer des entreprises. Le bâtiment est aussi un monde des petites entreprises, non seulement des grands groupes industriels, évidemment, comme Bouygues à l'époque. Et donc, dans ces univers-là, très diversifiés aussi en termes de structures industrielles, donc il y a en effet donc, des migrants non qualifiés qui arrivent et qui ne parlent pas la langue, mais assez rapidement aussi des migrants beaucoup plus, en fait, même de maîtriser la langue et aussi des compétences qui leur serviront pour devenir entrepreneur. Donc, c'est, voilà, je pense qu'il faut nuancer un petit peu cette vision. Et d'ailleurs, ces migrants-là se stabilisent.
Et puisqu'on entend aussi Nicolas Jounin dans ses propos de Francis Bouygues, c'est que la main-d'œuvre étrangère est associée à un certain nombre de stéréotypes et notamment la force de travail.
Oui, tout à fait. Alors, l'intégralité de cette interview est passionnante. On la retrouve dans le film de Marcel Trilla, Étranger. Et on retrouve notamment y a des passages à la fois extrêmement laudateurs à l'égard des travailleurs étrangers. Je les aime beaucoup, je les connais bien, alors qu'ils peuvent rappeler par ailleurs un certain discours colonialiste. Et en même temps, quand Marcel Trilla interroge Francis Bouygues sur une récente émission de télévision où un syndicaliste immigré critique les conditions de travail dans le bâtiment, là on retrouve un visage assez sombre et menaçant, disant que quand on va à la télévision française et qu'on est étranger, c'est pas pour critiquer. Donc on voit un peu cette alternance entre la menace et la bienveillance qui est un peu constitutive de ce paternalisme qu'institue Francis Bouygues, mais d'autres entreprises aussi. C'est vrai que dans l'entreprise Bouygues, ça a été poussé très loin, à travers aussi la promotion hein, d'un certain nombre de ces travailleurs immigrés, mais toujours une minorité d'entre eux s'était théorisé comme tel, notamment dans une structure qui s'appelle les Compagnons du Minorange, donc où Bouygues jouait à la fois sur l'imaginaire de la mobilité, avec l'imaginaire des corporations, des compagnons, mais qui est tout à fait contradictoire avec, par contre, la structure hiérarchisée d'une entreprise, avec un chef d'entreprise qui commande à tout ça et qui est président de cet ordre des compagnons.
Et alors, ce qui est intéressant de constater, ce sont les évolutions que l'on observe à partir des années 70. L'externalisation se développe dans le secteur du bâtiment comme ailleurs, Emmanuela Martini. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est lié à cette structure dont vous parliez, le fait qu'en France, près de deux tiers des entreprises finalement n'ont pas plus de 10 salariés et sont des PME?
Oui, je pense qu'en fait, la sous-traitance, hein, on l'appelle peut-être avec un terme qui résume un peu l'ensemble des formes de justement des travailleurs forfaits qui sont liés en fait à la construction, à l'industrie de la construction. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'un des problèmes en fait des entrepreneurs est celui de coordonner toute une série en fait de activités, des métiers qui donc demandent en fait énorme effort de coordination. Donc la sous-traitance permet de pallier pour partie ces problèmes de surveillance, hein, tout simplement. Et du coup, pendant, on peut dire que c'est un élément en fait constitutif du bâtiment, avec des moments où elle est plus ou moins importante, hein, et en termes des volumes, des travaux confiés, etc. Alors, pendant les Trente Glorieuses, on a une baisse, hein, des travaux confiés en sous-traitance, c'est-à-dire il y a des formes d'intégration, hein, surtout dans les grandes entreprises, de toutes les étapes de la construction d'un bâtiment.
Mais une plus grande spécialisation qui revient à partir des années 70.
À partir de la crise en particulier, donc c'est aussi une manière pour réduire les coûts, hein. La sous-traitance a été depuis peut-être les 18e siècle, hein, une manière pour maîtriser les coûts, en fait, parce qu'on confie un travail pour un montant, une somme donnée à effectuer à un entrepreneur, un sous-entrepreneur, donc qui se charge de rémunérer. C'est souvent à cause du fait que les prix peut-être sont trop contenus, sont trop maîtrisés, qu'il y a en effet des problèmes liés à la rémunération in fine des travailleurs, hein, qui se retrouvent parfois avec des salaires qui ne sont pas exactement ceux qu'ils avaient négociés avec les sous-entrepreneurs.
Alors justement, ce recours à la sous-traitance et cette précarité qui semble structurelle, cette précarité des ouvriers du bâtiment, c'est ce qui fait, selon vous, Nicolas Jounin, que le secteur du bâtiment, enfin c'est en cela plus exactement qu'on peut dire que le secteur du bâtiment s'est historiquement démarqué du fordisme.
Oui, alors c'est la sous-traitance qu'on appelait tâcheronnage au 19e siècle, c'est un spectre qui parcourt le bâtiment depuis longtemps, puisque l'une des revendications lors de la révolution de 1848, c'était justement la fin du tâcheronnage, c'est-à-dire la fin de ce qu'on appellerait aujourd'hui plutôt la sous-traitance, ou ce qu'on appelle le marchandage dans le code du travail aujourd'hui, qui est interdit, mais même si la proximité avec la sous-traitance est patente. Et donc ça a été réinterdit périodiquement, et pour la dernière fois en 1973. Et en même temps, la loi de 1973 qui interdit ce qu'on appelle le marchandage, donc le prêt de main-d'œuvre à but lucratif qui a pour effet ou pour objectif de porter préjudice aux salariés, selon la définition juridique, cette interdiction du marchandage, elle est réaffirmée en même temps que, un, on légalise l'intérim, et deux, on facilite la sous-traitance, et donc la proximité entre ces deux formes d'intermédiation, elle est, avec le marchandage, elle est permanente. Et donc effectivement, ce qui s'est passé pendant les Trente Glorieuses, c'est qu'on a une très grande mobilité de la main-d'œuvre, contrairement à ce qu'on observe par exemple dans les usines automobiles, où il y a une volonté de stabiliser la main-d'œuvre. Il y a une très grande mobilité, à la fois du fait des entreprises qui pratiquent très couramment le licenciement en fin de chantier, et du fait des ouvriers eux-mêmes qui vont changer d'entreprise pour quelques centimes ou quelques francs en plus.
Mais vous y voyez-vous aussi,
généralement le font par équipe.
Vous y voyez-vous aussi, Nicolas Jounin, pardon de vous interrompre, mais une réponse de l'entreprise à un fonctionnement économique qui est le sien, qui est spécifique à ce secteur du bâtiment?
C'est toujours une question de sur qui on fait reporter l'incertitude liée à l'activité économique. L'activité du bâtiment est extrêmement cyclique, donc il y a une incertitude économique qui peut exister dans d'autres secteurs, mais qui est particulièrement forte dans le bâtiment. Il y a toujours la question de savoir sur qui ça repose. Prioritairement sur les entreprises, dans le cadre par exemple d'un CDI sécurisé, qui fait que même quand il y a une baisse d'activité, les salariés restent, ou prioritairement sur les salariés qui seraient un peu les premiers pénalisés par tout retournement de tendance. Et c'est un peu cette lutte qui se joue en permanence. Et la loi de 1973 sur le licenciement, qui oblige à avoir une cause réelle et sérieuse pour licencier. Pour d'autres secteurs, elle change pas grand-chose, parce qu'en fait, c'était des pratiques qui étaient déjà institutionnalisées. Pour le bâtiment, ça change beaucoup de choses, justement, parce qu'on a la pratique très courante du licenciement en fin de chantier. Et le secteur n'aura de cesse de réclamer un contrat spécifique qui va donner le contrat de chantier qui est obtenu en 1978, mais peut-être un peu tard d'une certaine manière, puisque entre-temps, le secteur du bâtiment et les grandes entreprises comme Bouygues, ou ce qui donnera plus tard Vinci ou Eiffage, se saisissent des nouveaux outils que sont l'intérim, la sous-traitance, et dans les années 1980 aussi, beaucoup, ce qu'on appellerait aujourd'hui les auto-entrepreneurs, mais plutôt donc des entreprises, des indépendants ou des faux indépendants, comme on pouvait le dire à l'époque.
Alors je voudrais vous faire entendre un témoignage. On reste encore un petit peu dans les années 60, au moment où les Algériens deviennent plus nombreux que les Italiens dans l'industrie du bâtiment.
Vous êtes arrivé quand en France ?
Mai 63. Je n'étais pas ici, j'étais au nord, au Pas-de-Calais nord. J'ai fait beaucoup de choses. J'ai commencé par les mines, et après j'ai étudié un peu de bâtiment. J'ai commencé par la peinture, la construction, poser des parpaings, des tuiles, des briquettes, manœuvres. Ça tourne jusqu'à ce que j'ai pris le métier. Après, elle a resté maçonnerie, peintre et couverture. Un peu de tout. On cherche, on trouve. Il n'y a pas de racisme ancien temps comme aujourd'hui. Cherche, venez demain. Allez hop, au boulot.
Voilà le témoignage d'un ouvrier immigré à la retraite, extrait d'un documentaire diffusé en 2005 sur France Culture. Dans les années 60, les travailleurs du bâtiment donc sont majoritairement algériens mais aussi portugais. Il était alors facile de trouver du travail, comme on peut l'entendre ici, Manuela Martini.
Oui, sans doute. Donc c'est une période de grande souplesse du marché du travail. Donc c'est vrai que cette souplesse est liée au fait que les flux migratoires sont nombreux et sont accompagnés de cette politique des portes ouvertes hein, qui, évidemment, était d'une part une politique qui s'appuyait sur en fait une législation et des organismes hein, qui avaient pour but donc de réguler.
Et c'est lié au fait qu'à ce moment-là, le secteur du bâtiment ne parvient plus à retenir les ouvriers français parce qu'il y a une trop basse rémunération et peut-être durée du travail qui est trop longue.
Absolument.
Et oui, bien sûr. Par les ouvriers français.
Oui, oui. Donc c'est un métier, enfin un secteur où les temps et évidemment le travail hebdomadaire, hein, la durée du travail hebdomadaire est plus longue que dans d'autres secteurs. La moyenne des salaires hein, est plus basse, surtout dans les entreprises petites et moyennes hein, que dans d'autres secteurs. Donc en effet, il y a un gros turnover. Hein, donc d'abord les Français, en effet, qui entrent éventuellement jeunes, mais qui sortent assez vite du secteur vers d'autres secteurs plus rémunérateurs de l'industrie, et aussi du turnover aussi interne donc au monde des migrants. Donc on a des Italiens présents massivement dès les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, donc on a 60% hein, d'Italiens, comme c'était le cas dans l'entre-deux-guerres, qui jusque, Italiens donc toujours présents jusqu'aux années 60, ils sont encore 40%, mais il y a en effet aussi des flux migratoires, hein, donc dans les années 60, en particulier nord-africains, enfin maghrébins, et algériens en particulier, qui commence à occuper des places, surtout dans ces travaux d'emplois non qualifiés dont on parlait au départ, avec une entrée importante des Portugais qui arrivent à la fin des années 60 et donc qui occupent, donc avec les Algériens sans doute, donc les positions donc, qu'auparavant avaient occupées les Italiens et les Espagnols.
Et avec un aspect qui est important et intéressant, Manuela Martini, c'est le fait que l'industrie du bâtiment connaît régulièrement des cycles, alors des phases de croissance et des phases de crise. En l'occurrence, le secteur traverse une crise dans les années 80 et il faudra attendre les années 2000 pour que les effectifs du BTP atteignent de nouveau 1,5 million d'emplois, de salariés.
Oui, en fait, la crise des années 80, à partir en particulier de 1981, touche lourdement. Hein, la crise des années 70 arrive avec un petit peu de retard dans le bâtiment, mais ensuite donc déferle vraiment et fait baisser drastiquement, radicalement les effectifs avec des niveaux qui ne sont plus atteints en fait par rapport à ceux des années 70. Donc on a dit 2 millions presque des salariés non salariés donc d'effectifs du bâtiment et donc jusque à descendre à 1,3 million avec une petite remontée au début des années 2000 mais de nouveau aujourd'hui en fait une baisse donc en fait grande sensibilité évidemment à la conjoncture hein, de ce secteur qui évidemment retombe sur la composition aussi de la main d'œuvre donc les migrants immigrés donc étrangers hein, parce que mieux précis des nationalités étrangères sont aujourd'hui autour des 14 et 16% dans les années 2000. Donc, on n'atteint plus les 30% des années 70, un sommet aussi d'un point de vue de la diversité.
On n'atteint plus les 30%, mais 14%, oui. C'est tout de même plus qu'aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni. Nicolas Jounin, comment est-ce qu'on peut l'expliquer ?
Bah, il y a eu, et ce, j'insiste, hein, depuis le 19e siècle, depuis que la bataille menée contre les corporations a été acquise, il y a eu donc l'institution à la place du système des corporations d'un marché du travail, avec l'incorporation progressive d'ouvriers différentes origines, à travers des migrations internes, puis externes, et sous couvert, vous l'évoquiez implicitement, d'un discours permanent depuis un siècle et demi de pénurie de main-d'œuvre. Y compris d'ailleurs pendant les périodes de crise des années 80-90, les organisations professionnelles patronales du secteur continuaient à tenir ce discours de la pénurie de main-d'œuvre qui peut étonner d'un point de vue de l'orthodoxie économique. Comment est-ce qu'on peut avoir une pénurie aussi longtemps et alors que, en fait, les bâtiments continuent de se construire?
Pour vous, cette pénurie de main-d'œuvre, elle n'est ni vraie ni fausse, mais elle a surtout été instrumentalisée pour des raisons que je vous laisserai nous expliquer.
C'est une manière de déconsidérer, en tout cas les faits, est de déconsidérer la main-d'œuvre qu'on utilise effectivement, puisqu'on est en train de dire qu'on utilise toujours cette main-d'œuvre faute de mieux, de cette main-d'œuvre idéale qu'on attend et qui est toujours en pénurie. Et ça justifie, par contre-coup, la dévalorisation dans l'usage de cette main-d'œuvre à travers ce que vous indiquez, les rémunérations basses et la durée du travail trop longue. On pourrait aussi parler assez longuement des conditions de travail et des risques.
Et c'est ce qui explique aussi cette existence d'une hiérarchie informelle entre les employés du bâtiment que vous avez analysé, Nicolas Jounin.
Comme vous l'indiquez, effectivement, le taylorisme a peu progressé dans le bâtiment. Les tentatives de préfabrication lourde, c'est-à-dire de fabriquer les bâtiments en usine avant de les assembler, ont plutôt échoué. De la même manière que tenter de faire des études de temps et mouvement, qui est un classique du taylorisme, pour dire très précisément faire ce mur, ça va prendre tant de temps, c'est aussi assez compliqué parce que chaque chantier est un prototype. Et donc, en fait, ce qui est resté le relais le plus fin de contrôle et de surveillance des ouvriers, ça reste le chef d'équipe, ce qu'on appelle dans d'autres secteurs le contremaître. D'où l'importance aussi du tâcheronnage ou de la sous-traitance qui continue à être importante parce qu'effectivement, cette fonction de surveillance de bas étage, elle est plus importante que dans d'autres secteurs, et avec d'un côté le développement de la précarité, c'est-à-dire d'instituer des mécanismes de marché sans entrave pour pouvoir embaucher et débaucher des gens, licencier des gens au pied levé en fonction des besoins. Et en même temps, cette tendance à la précarité, elle a des effets pervers pour la production. C'est-à-dire que moins vous êtes loyal vis-à-vis de salariés, moins eux-mêmes le sont vis-à-vis de vous. Donc il y a des mécanismes de compensatoires, de hiérarchie, de loyauté informelle qui s'établissent entre certains chefs d'équipe ou entre certains commerciaux d'intérim, certains chefs de chantier et certains ouvriers. Donc, qui eux vont faire partie d'un noyau informel relativement stable qui va accumuler le savoir-faire, l'apprentissage du travail en équipe, pendant que tournera autour un volant d'ouvriers périphériques et beaucoup plus précaires.
On va reparler de ces loyautés informelles et aussi du fait que le BTP, c'est l'un des secteurs qui a le plus recours au travail dissimulé. On va essayer de savoir pourquoi dans un instant. I got one job, two jobs, three when I need them. I got five roommates in this one studio, but I never really see them. And we all came America trying to get a lap dance from Lady Freedom. But now Lady Liberty is acting like Hillary Banks with a prenup. Banks with a prenup. Man, I was brave, sailing on graves. Don't think I didn't notice those tombstones disguised as waves. I'm no dummy, here's something funny. You could be an immigrant without risking your lives or crossing these borders with thrifty supplies. All you gotta do is see the world with new eyes. Immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Far I come, we get the job done. Look how far I come, look how far I come, look how far I come. Immigrants, we get the job done.
It's a hard line when you're an import, baby boy. It's hard times when you ain't sent for braces. Feed the belly of the beast with they pitchforks. Rich chores done by the people that get ignored. Ya se armó, ya se despertaron. It's a whole awakening. La alarma ya sonó hace rato. Los que quieren buscan, pero nos apodan como vagos. We're the same ones hustling on every level.
levanten los datos. Walk a mile in our shoes, abróchense los zapatos. I've been scoping y'all dudes, y'all ain't been working like I do. Why outwork ya? It hurts ya. You claim I'm stealing jobs, oh, Peter Piper claimed he picked them. He just underpaid Pablo, but there ain't a paper trail when you living in the shadows. We America's ghostwriters, the credit's only borrowed. It's a matter of time before the checks all come. But
immigrants, we get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. We get the job done. Look how far I come. Look how far I come. Look how far I come. Immigrants, we get the job done.
Vous écoutez Immigrants du rappeur canadien d'origine somalienne Kainan. C'est la suite d'Entendez-vous l'écho sur France Culture. Nous sommes toujours en compagnie de l'historienne Manuela Martini et du sociologue Nicolas Jounin en duplex de Dijon pour parler de l'histoire troublée des ouvriers du bâtiment.
France Culture. Entendez-vous l'écho. Tiffaine de Roquigny.
Alors je le disais, le BTP est l'un des secteurs qui a le plus recours au travail dissimulé. Quelle est d'abord peut-être, Nicolas Jounin, l'ampleur de ce travail dissimulé en France, tout secteur confondu? Alors c'est par définition très très difficile à savoir, mais en tout cas si on parle du bâtiment, on estime que c'est environ 20% des travailleurs du bâtiment qui ne seraient pas déclarés.
Je ne connais pas les chiffres et j'y prête peu attention parce qu'effectivement, je pense que c'est très difficile à mesurer. Et dans ce qu'on appelle travail dissimulé, on mélange souvent beaucoup de choses. D'une part, on peut avoir du travail entièrement non déclaré, c'est-à-dire aucune cotisation sociale n'est payée à l'URSSAF. Hein, c'est ça le travail dissimulé. On peut avoir du travail partiellement déclaré, donc c'est typiquement le fait d'avoir régulièrement des heures supplémentaires et que celles-ci ne sont pas des fois rémunérées, mais en tout cas ne sont pas cotisées auprès de l'URSSAF. C'est ce que j'ai vu dans le secteur du bâtiment, plutôt que des emplois non déclarés, mais j'étais dans un sous-secteur très spécifique, c'était le gros œuvre en Ile-de-France, et comme le rappelait Manuela Martini, le secteur du bâtiment, c'est extrêmement varié, donc on peut avoir des sous-secteurs où le travail dissimulé va être entièrement dissimulé, va être très répandu, et puis d'autres où ce n'est pas le cas. Et puis, il faut pas mélanger le travail dissimulé avec d'autres formes de travail illégal, ce qu'on appelle le travail illégal dans le droit, donc d'autres formes d'infractions, parmi lesquelles peuvent rentrer le fait d'employer des étrangers sans titre, donc ce qu'on appelle aussi des sans-papiers, ce qui n'implique pas forcément du travail dissimulé. On peut être sans-papiers et être parfaitement déclaré auprès de l'URSSAF, donc payer des cotisations sociales. Simplement, on est exclu des prestations sociales depuis la loi Pasqua de 1993. Et en revanche, il y a d'autres illégalités qui me paraissent tout à fait décisives. Par exemple, le développement de l'intérim, dans des proportions qui ne correspondent pas au cadre légal, aux conditions d'usage de l'intérim, puisque c'est en permanence sur tout un tas de chantiers, entre 30 et 60% de l'effectif qui sont des intérimaires.
Alors il faut se retrouver effectivement dans toutes ces illégalités. Je voudrais simplement entendre Manuela Martini. Effectivement, on peut se demander, comme le disait Nicolas Jounin, s'il faut parler de travail au noir, de travail dissimulé, de travail informel, et qu'est-ce qu'on désigne par toutes ces expressions ?
Historiquement, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est précisément pendant les Trente Glorieuses que on définit donc le statut des travailleurs, et donc on peut commencer à parler en effet de ces formes de travail dissimulé, clandestin, illégal, etc. parce que on a un cadre juridique qui permet de le faire. Ce que j'ai pu constater moi en travaillant sur une période plus longue, donc dans l'entre-deux-guerres, c'est avant donc la mise en place de systèmes de protection en fait de droits des travailleurs en particulier, donc qui définit précisément le statut du salariat, que on a des formes de souplesse également qui sont liées donc au fait qu'il y a donc ces systèmes dont nous avons parlé, Nicolas Jounin et moi-même, du tâcheronat, qu'on appelait du tâcheronat, qui est très répandu, extrêmement répandu, et donc qui permet en fait, quoi exactement? D'une part, d'avoir un travailleur qui est souvent migrant, qualifié, qui a acquis donc cette qualification sur l'État. Et comme les travailleurs algériens qu'on a entendus, et donc il a utilisé des mots, j'ai étudié les bâtiments, il a dit des mots très parlants de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'apprendre qui est liée donc à cet apprentissage donc pratique, donc de savoir pratique qui est une réalité pour beaucoup. Donc ces travailleurs-là peuvent devenir chefs d'équipe, hein, chefs de chantier, voire petits entrepreneurs, des main d'œuvre. Les plus souvent sont des entrepreneurs de main main d'œuvre, comme l'a rappelé Nicolas Junin.
Mais le plus souvent, cet apprentissage, cette montée en compétences est gênée par le fait que ce sont précisément des emplois précaires de courte durée, Manuela Martin.
Alors, il y a justement deux marchés du travail dans le bâtiment. Un marché du travail qu'on peut définir secondaire, où il y a beaucoup de turnover et des ouvriers qui restent peu, très, de manière
peu longtemps,
très précaire, peu longtemps, qui peuvent, par exemple, rester le temps d'un chantier pour faire être tout simplement manœuvre. Mais il y a donc un autre groupe de travailleurs, donc plus stable, qui donc sont souvent rémunérés avec, par exemple, des salaires mensuels ou voire annuels. Donc c'est un groupe de travailleurs, donc un noyau dur des travailleurs qu'on essaie de fidéliser à travers donc la durée du contrat de travail qui devient un contrat formel, surtout pendant les Trente Glorieuses, comme on l'a dit, ou d'autres formes d'incitation hein, économique. Pour assurer cette stabilité. Donc, et c'est là où joue justement cette. Évidemment, il y a des inégalités, mais c'est une manière de hiérarchiser pour l'employeur la main-d'œuvre pour créer des conditions en fait des productives optimales dans un secteur qui est, d'un point de vue justement de l'environnement, etc., très, très changeant. Et donc,
mais alors, cette précarité, cette instabilité du marché secondaire dont parle Manuela Martini, Nicolas Jounin, c'est ce qui explique aussi en partie les manifestations des Gilets noirs qu'on a pu voir cet été, c'est-à-dire ces travailleurs sans papier qui demandent aujourd'hui leur régularisation et qui s'inscrivent dans le sillage du mouvement des Gilets jaunes.
Alors, il y a deux choses. Il y a d'une part une précarité qui touche bien au-delà des travailleurs qui sont sans papier à travers, par exemple, le développement de l'intérim et le fait, c'était l'illégalité sur laquelle je voulais chuter, le fait de pouvoir se permettre de renvoyer les gens du jour au lendemain ou en tout cas faire planer cette menace, y compris vis-à-vis de gens qui sont stables. Donc, on n'est pas du tout dans le modèle du contrat à durée déterminée, ce que devrait être l'intérim du point de vue du droit. On est plutôt dans le modèle d'une précarité à durée indéterminée, d'un contrat à durée indéterminée, mais sur siège éjectable. Et ça concerne beaucoup de gens, mais ça concerne notamment les sans-papiers, puisque dans le secteur du bâtiment, en tout cas du gros œuvre, ils sont bien souvent confinés à l'intérim. Pour quelles raisons? Parce que Bouygues, Vinci et Fage vont les utiliser sur les chantiers, mais ne vont pas les employer directement. Ils vont donc externaliser la gestion de cette main-d'œuvre, mais aussi l'illégalité qui va avec, qui est le fait d'employer des personnes sans titre. Et donc on a là le mouvement récent des Gilets noirs, qui fait écho, 10 ans après, à un mouvement très important aussi d'intérimaires sans papier de la construction, qui avait emporté entre 1000 et 2000 travailleurs du bâtiment, tous sans papier, qui demandaient leur régularisation en occupant par exemple la Fédération Nationale des Travaux Publics ou la Fédération Française du Bâtiment.
Et on a vu en même temps un certain nombre d'initiatives prises par le gouvernement ces dernières années justement pour lutter contre ce travail dissimulé. Je pense en particulier au déploiement des cartes d'identification professionnelle du BTP qui ont été créées par la loi Macron de 2015, mais aussi le plan contre le travail illégal qui fixe un certain nombre de contrôles et qui a été validé en juillet dernier. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces initiatives, Manuela Martini?
On peut dire qu'il s'agit de l'aboutissement en fait d'un processus très très long qui avait commencé peut-être justement en 1848 quelque part, c'est-à-dire cette idée que on essaye de réglementer en fait les secteurs, les formes de recrutement de la main-d'œuvre dans un secteur qui a justement pour caractéristique au contraire celle de viser à la souplesse. Donc l'idée, on élimine donc le marchandage, on a vu, c'était un but, un objectif qui était vraiment quelque part symptomatique dans une demande des travailleurs même et qui n'aboutit pas. Parce qu'en fait, on arrive uniquement à limiter les abus hein, du marchandage, mais pas à l'interdire, et jusque donc à développement hein, de toute une législation qui passe par des formes de plus de responsabilisation, hein, des responsabilités qu'on attribue de plus en plus non seulement aux sous-traitants, mais aussi aux maîtres d'œuvre, aux maîtres d'ouvrage, donc jusqu'au moment où toute la chaîne de la sous-traitance est composée d'entrepreneurs qui sont responsables, in fine, de la rémunération des travailleurs.
Alors justement, ils
y compris immigrés, mais ce sont évidemment immigrés avec des papiers et employés avec... voilà.
Je vais vous faire réagir, Nicolas Jounin, mais je voudrais d'abord qu'on illustre ces propos avec le son d'une opération de police sur un chantier parisien. C'était en 2015.
La sous-traitance, elle est déclarée, vous savez si...
Oui, elles sont déclarées. Oui, bien sûr.
Oui, non, mais je...
Oui. Bah, on a tous les documents.
D'accord, ben, justement.
On a des sociétés qui interviennent en sous-traitance de sous-traitance de sous-traitance, qui ne sont pas forcément connues, qui peuvent l'être, mais pas nécessairement par le maître d'ouvrage et par le maître d'œuvre, et qui emploient des salariés en les sous-payant au regard de ce que fait une entreprise avec pignon sur rue en France.
On a quelques questions à vous poser, d'autres questions, il n'y a pas de souci.
Essayez-vous, hein, Stéphane, vous. Essayez-vous.
L'idée pour le fraudeur, c'est de créer une structure dans un pays européen qui autorise facilement le détachement et d'avoir en fait une activité réelle, permanente et continue sur le territoire français pour ne pas avoir à payer les charges et les impôts, bien évidemment.
Voilà un extrait d'un documentaire sur le travail illégal qui avait été diffusé sur France 5. Nicolas Jounin, qu'est-ce qu'on peut dire justement de cette fraude au travail détaché qui fait partie plus généralement du travail dissimulé ?
J'aimerais revenir juste avant pour qu'on comprenne bien sur la question des sans-papiers, parce que je trouve qu'on a tendance à mélanger un peu toutes les infractions et à faire un gros pot pourri de tout ce que le bâtiment ferait mal. Vous parliez par exemple des cartes d'identification donc qui permettraient éventuellement, moi je crois pas que ce soit efficace, enfin je sais que ce n'est pas efficace, d'empêcher des travailleurs sans-papiers d'arriver sur les chantiers. C'est certainement pas, je pense, la revendication des Gilets Noirs que ces cartes d'identification fonctionnent mieux et leur ferment la porte des chantiers et la possibilité de travailler. Ce qu'ils demandent, c'est leur régularisation pour avoir les mêmes droits, à peu près, ou la même possibilité de faire valoir leurs droits que leurs collègues de chantier. Donc c'est pas la même infraction l'emploi d'étrangers sans titre que le fait, par exemple, que leur cotisation sociale ne soit pas payée. Ils demandent à ce que leur cotisation sociale soit payée, mais ils demandent aussi à pouvoir continuer à travailler de manière régulière, en ayant des papiers. Parce que actuellement la situation dans laquelle ils sont, c'est celle que l'économiste Yann Moulier-Boutan a résumée sous l'expression « salariat bridé », c'est-à-dire que ce sont des salariés qui n'ont pas les mêmes droits, les mêmes opportunités professionnelles pour des raisons des discriminations juridiques, aussi des discriminations de fait, mais en l'occurrence, le fait d'être sans papier, c'est plutôt une discrimination juridique. Ils n'ont pas les mêmes droits, les mêmes possibilités de faire valoir la concurrence entre employeurs, par exemple, qu'ont d'autres salariés. Et c'est ce qui se passe, effectivement, dans le cas du détachement aussi. Le détachement, c'est le fait qu'une entreprise étrangère puisse... faire travailler ses salariés avec tout ce que supposent les accords internationaux ou européens sur la liberté de service. L'entreprise déplace ses salariés comme son matériel. Ça n'est pas considéré comme de la migration d'un point de vue juridique. Et dans le cadre, quand c'est dans le cadre communautaire européen, en payant les cotisations sociales au pays d'origine et au taux du pays d'origine. S'y ajoute, parce que c'est souvent là-dessus qu'on met l'accent, je me souviens pendant la discussion sur la directive Bolkestein il y a 2005, on mettait toujours l'accent sur l'histoire du taux du pays d'origine, ce qui est vrai. Mais il y a d'autres éléments qui sont tout à fait importants aussi et qui tiennent moins peut-être au coût du travail qu'à la discipline des travailleurs. Emmanuel Lamartini y insistait aussi. C'est très important du point de vue des employeurs, du point de vue des conditions de travail étant difficile. Par exemple, c'est dans le cas du détachement, et là, c'est pas une fraude, c'est tout à fait légal. Dans le cas du détachement, c'est le droit du licenciement du pays d'origine qui s'applique. Or, le droit du licenciement polonais, par exemple, il y a un certain nombre de travailleurs détachés polonais, n'est pas du tout le même que le droit du licenciement français. On peut licencier quelqu'un pour n'importe quelle raison.
Mais il y a aussi des actions qui sont illégales quant au travail détaché, Nicolas Jounin, et c'est là-dessus que sont effectués un certain nombre de contrôles. On a l'impression, en tout cas, il y a au moins une volonté afficher de lutter contre ces manquements.
Oui, mais d'un point de vue économique et du point de vue des employeurs, des entreprises du bâtiment, et y compris des entreprises qui ont pignon sur rue, qui ont recours à cette sous-traitance, y a un enchevêtrement de raisons légales et illégales à l'usage du travail détaché. D'un point de vue légal, c'est déjà intéressant puisque ça fait baisser le coût du travail, puisque les cotisations sociales sont payées au taux du pays d'origine, et le droit du licenciement notamment. Et aussi le fait qu'éventuellement les personnes n'ont pas la liberté de circulation et d'installation en France. c'était le cas par exemple des Polonais, des Roumains et des Bulgares jusqu'à récemment, qui étaient donc déplacés librement par leurs entreprises, mais qui par eux-mêmes n'avaient pas le droit de démissionner pour aller se faire embaucher ailleurs. Mmh. Ou même s'ils se faisaient licencier, ils ne pouvaient pas trouver du boulot ailleurs en France. Et tout ça était très légal. Se surajoute à tout ça, parce que c'est très difficile à contrôler le détachement de travailleurs, les contrats sont faits en Polonais, en Roumain ou en Bulgare, se rajoute à ça un certain nombre d'illégalités qui en rajoutent, mais si vous voulez, c'est un package de choses qui sont légales et illégales qui font que c'est intéressant et économiquement. Mmh. Je ne pense pas qu'il faille se focaliser sur ce qui est spécifiquement illégal.
On se demandait tout à l'heure effectivement ce qui était intéressant économiquement pour l'industrie du bâtiment, mais en l'occurrence cette précarisation de la main d'œuvre du bâtiment pose un certain nombre de problèmes, notamment sur le plan de la stabilité de l'entreprise. Manuela Martini, est-ce que ces conséquences économiques ne suffisent pas à repenser un petit peu ce fonctionnement de la main d'œuvre dans le bâtiment?
Ce qu'on a constaté, en fait, c'est l'extrême souplesse, en fait, des formes qu'on nomme de manière différente en fonction aussi des contextes juridiques et institutionnels qu'on traverse. Mais il y a, je dirais, des constantes, des manières, des modes d'organiser le travail qui sont liés justement, comme on l'a rappelé tout au long de l'émission, au fait que les processus de taylorisation est très, comment dire, indirectement, concerne indirectement seulement les bâtiments. C'est-à-dire qu'on a évidemment des outils, on a des parties du bâtiment qui sont préfabriquées, etc. Mais en fait, on s'appuie encore aujourd'hui sur la main-d'œuvre et sur la coordination d'équipes qui sont nécessaires pour en fait assurer en fait la construction vraiment du coup d'un bâti qui se compose de différentes parties et qui doivent être donc assemblées et qui du coup nécessitent en fait le travail donc d'équipes indépendantes.
Mais une main d'œuvre qu'il faut tout de même s'efforcer de retenir justement pour la stabilité.
Ça, c'est la grande question.
D'un certain nombre de chantiers. Et alors justement, on commençait à en parler tout à l'heure, Nicolas Jounin, il y a la théorie des contrats implicites qui permet peut-être de comprendre pourquoi les ouvriers restent malgré des conditions de travail difficile.
Alors, un exemple caricatural mais concret de ce que ça peut entraîner cette précarité à outrance, c'est des agences d'intérim qui, très couramment, elles savent qu'on leur a commandé un manœuvre ou deux manœuvres tel jour sur tel chantier. On leur en a commandé un, disons, elles en convoquent trois ou quatre en se disant, il y en a quand même au moins un qui va venir et qui va se présenter sur le chantier. Et puis, s'il y en a deux ou trois qui se présentent, et ben les autres sont remerciés. Et donc, ils ont perdu leur journée puisqu'ils sont venus pour rien sur le chantier. Sachant ça, évidemment, les ouvriers vont dire « Oui, je viens lundi. » Et en même temps, vont continuer à chercher et peut-être se présenter sur un autre chantier. Et donc, ça va renforcer le commercial d'intérim dans l'idée de se dire qu'il faut convoquer davantage de personnes que nécessaire. Donc, on entre dans une spirale de déloyauté complètement absurde et qui, au final, n'est intéressante pour personne. Donc,
alors, ça expliquez-nous va être compensé. Peut-être justement comment cette théorie des contrats implicites cherche à répondre à cette spirale, à empêcher peut-être cette spirale.
Alors, la théorie des contrats implicites, moi je la cite pour la critiquer, c'est-à-dire que je pense que c'est la réponse qu'essayent de donner certains économistes qui sont confrontés aux apories de certains dogmes de leur discipline, en tout cas dans la partie orthodoxe, qui est de dire que quand on achète du travail, en fait on ne sait pas exactement ce qu'on achète, on n'achète qu'une promesse de travail. On ne sait pas, et de manière caricaturale, on ne sait même pas si la personne va vraiment se présenter sur le chantier. Donc qu'est-ce qu'on fait pour que la personne se présente sur le chantier et que quand elle est sur le chantier, elle travaille avec un minimum de discipline, de volonté et de conscience. Et ben, il y a d'une part la précarité, la discipline par la faim, et puis il y a d'autre part effectivement un certain nombre de promesses qui peuvent être données informelles. De dire que peut-être si tu travailles bien là, bah tu reviendras sur le prochain chantier, voire tu viendras avec une qualification supérieure. Donc il y a un jeu de promesses et d'attentes qui peuvent être des fois déçues, mais qui se joue avec une fraction, parce qu'il y a toujours une fraction, en revanche une fraction des salariés qui resteront simplement précaires, mais d'autres qui, tout en restant dans un statut juridique de précarité, auront une certaine certitude sur le lendemain. Et on parle de théorie des contrats implicites, mais c'est une contradiction d'utiliser ce terme. Le contrat, c'est le royaume de l'explicite. Donc si on parle de contrat implicite, c'est qu'on sait pas comment nommer ça. Moi, je disais de manière un peu provocante, ça peut être aussi bien un pistolet sur la tempe un implicite ou invisible, puisque les personnes sont dans une difficulté, dans une la discipline par la fin, la peur d'éventuellement d'être arrêté sur le chantier, d'être expulsé. Il y a toutes ces situations-là qui contribuent à discipliner les travailleurs, à faire en sorte qu'ils se rendent sur le chantier.
On voit bien que les employeurs ont des difficultés à retenir les salariés, jusqu'à, pour certains, à faire des fausses promesses, Manuela Martini.
Oui, d'une part, donc ils peuvent jouer sur des liens culturels, ethniques, comme on les appelle, hein, qui ont fonctionné justement comme liant et comme ciment. On a pu justement s'appuyer sur des réseaux migratoires aussi parce que cela impliquait une forme de cohésion. En termes donc de recherche d'une part, mais aussi de fidélisation de main d'œuvre qui se sentait liée par la promesse faite à quelqu'un qu'on connaissait personnellement, auquel on était parfois lié par des liens de parentèle. Et d'autre part, on a pu utiliser, d'un point de vue économique beaucoup plus, si vous voulez, direct, des formes d'incitation qui ont permis de fidéliser un certain nombre d'employés auxquels on tenait particulièrement à travers des primes, tout simplement, ou, y compris dans les petites et moyennes entreprises, parce qu'on parle souvent, on a parlé surtout des grandes entreprises, parce que Nicolas Violin a en effet étudié la grande entreprise, mais en fait, dans les petites et moyennes entreprises, on a évidemment utilisé des formes peut-être un peu plus souples de fidélisation et liées à des réseaux, des connaissances.
Et ce que l'on voit, c'est que cette flexibilité dont on parle se renforce peut-être aujourd'hui dans un contexte plus général de mutation du droit du travail. C'est même un modèle qui peut être valorisé d'un point de vue néoclassique, justement, pour sa flexibilité. C'est le cas en particulier depuis les années 70, Nicolas Jounin. Finalement, oui, ça devient en quelque sorte un modèle, ce fonctionnement dans le monde
Le contrat de chantier qui est... Effectivement, le contrat de chantier qui est obtenu en 1978 a été introduit, ou on a tenté de l'introduire par différentes réformes du Code du travail. De la même manière que quand on a tenté d'instituer, on a fait exister d'ailleurs un petit moment le contrat nouvelle embauche ou le contrat première embauche il y a une dizaine d'années, c'était l'idée d'un CDI, d'un contrat à durée indéterminée, mais avec une période d'essai très longue de 2 ans qui permettait de licencier pour tout motif la personne et sans que la personne puisse se retourner contre son employeur. Donc ces formes de précarité à durée indéterminée qu'on retrouve déjà dans le bâtiment, dans les pratiques illégales de l'intérim du bâtiment. De la même manière qu'on peut considérer que la barémisation la réforme Macron de 2017 avec le fait de mettre un barème pour les indemnités en cas de licenciement abusif, j'insiste, un licenciement abusif, c'est une manière effectivement, comme on l'a souligné, de provisionner pour les employeurs ce que leur coûtera un licenciement sans raison, sans bonne raison, et ça peut-être faire de la concurrence d'une certaine manière à l'intérim ou au CDD où il faut qu'on paye une prime de précarité, les 10% de congés payés. Ça peut être plus intéressant de licencier de manière abusive quelqu'un en CDI et donc de réinstituer de manière légale cette précarité à durée indéterminée qui est déjà développée dans le bâtiment.
Ce qui va nous amener à notre conclusion, Manuela Martini, vous diriez aujourd'hui que dans ce contexte justement de mutation du droit du travail, est-ce que vous êtes plutôt optimiste sur la capacité justement à améliorer les conditions de travail dans l'univers du bâtiment et à revaloriser les salaires des ouvriers en France ?
Je ne suis pas particulièrement optimiste ni pessimiste. Je pense qu'en fait, les contextes dans lesquels évolue le bâtiment est fortement influencé par les contextes des crises dans lesquelles on vit et qui s'est aggravé malheureusement depuis 2008. Donc je pense que tout dépend en fait de l'évolution de l'économie, je dirais, européenne plus globalement, si on parle un terme un peu plus généraux et pas seulement de la France. Donc, et là, du coup, il y a un grand point d'interrogation qui s'ouvre.
Et Et c'est l'heure du journal de l'écho présenté par Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Du changement à la tête du pétrole saoudien à quelques jours d'intervalle, un nouveau PDG pour le puissant saoudi Aramco et un nouveau ministre de l'énergie.
Oui, c'est Abdelaziz Ben Salman, un des fils du roi Salman et frère de MBS, nommé ce week-end alors qu'au début du mois, l'entreprise nationale saoudi Aramco, première mondiale, était pourvue d'un nouveau PDG. Lui, c'est Yassir Al-Rumaini qui était déjà dirigeant du PIF, le fonds d'investissement public. Ceci alors que la privatisation partielle d'Aramco tarde depuis 2018, officiellement faute d'être suffisamment valorisée. Alors avec cette reprise en main politique, tout pourrait-il changer? Cette année, l'entreprise a annoncé des bénéfices records de 111 milliards de dollars et d'ailleurs donné des gages de transparence. Et il y a quelques heures, le directeur exécutif d'Aramco annonçait être prêt pour une introduction en bourse, dit-il, très bientôt. Le chercheur à l'IRIS et spécialiste du pétrole, Francis Perrin, était lui plus circonspect.
Le projet d'ouverture du capital de Saudi Aramco reste un projet clé pour justement fournir des financements, des capitaux pour cette diversification de l'économie saoudienne que la famille royale au plus haut niveau appelle de ses voeux. Et ça dépend donc de cette privatisation partielle à hauteur de 5%, qui rapporterait plusieurs dizaines de milliards de dollars en tout état de cause, et bien sûr de la bonne tenue des prix du pétrole. Et cela implique ensuite que ces recettes pétrolières se diffuse dans l'économie à travers notamment ce Public Investment Fund, le PIF, cet organisme qui est dirigé justement par le nouveau PDG de Saudi Aramco. Donc la boucle est bouclée. Ensuite, il ne suffit pas de mettre les hommes en place pour le prince héritier Mohamed Ben Salman. La stratégie se décline à d'autres niveaux et notamment ce qui va se jouer sur le marché et les prix du pétrole dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Et ça, c'est une autre affaire.
L'OPEP qui doit d'ailleurs se réunir jeudi prochain pour discuter des quotas de production.
Oui, l'OPEP plus, c'est-à-dire les 14 membres avec la Russie qui se sont entendus depuis 2016 pour freiner la production et donc enrayer la chute des prix. Depuis le 2 septembre, date de la nomination du nouveau PDG d'Aramco, en tout cas les cours du brut remontent légèrement. Le cartel et la Russie doivent décider en décembre de la poursuite de cette politique. L'Arabie Saoudite et les Émirats se sont prononcés pour. Reste à voir qui paiera, c'est-à-dire qui réduira la production.
On passe au bref, l'Union européenne et Cuba alliés contre les États-Unis pour protéger leurs relations commerciales.
Oui, ce qu'a affirmé la haute représentante pour la politique étrangère européenne, Federica Mogherini, hier à la Havane, venue rappeler que depuis 3 ans et le rapprochement politique, l'Union est devenue le premier partenaire économique de Cuba et parce que les deux sont en effet en lutte commune contre une loi américaine, la loi Helms-Burton, qui permet aux États-Unis de sanctionner les entreprises étrangères qui font du bénéfice avec des entreprises cubaines nationalisées après la Révolution, serait ainsi visé, selon le Conseil économique et commercial américain, des compagnies comme Delta Airlines, mais aussi le français Pernod Ricard. Ainsi, Mogherini a évoqué, dès maintenant, je la cite, des mesures de l'Union européenne pour essayer d'avoir une protection efficace des investissements et de la présence économique européenne à Cuba.
Aux États-Unis, justement, ce sont les géants du net qui sont actuellement dans le viseur de la justice.
Oui, avec cette enquête lancée par les procureurs de 50 États contre Google pour vérifier qu'ils n'entravent pas la concurrence publicitaire en imposant à ses sites clients des conditions restrictives. Google, dans le top 3 des entreprises numériques mondiales, possède aussi 37,2% des parts du marché publicitaire américain. C'est seulement 22,1% pour son concurrent Facebook, mais lui aussi est sous le coup d'une autre enquête annoncée lundi, enquête de 8 États sur un éventuel monopole et une domination sur les réseaux sociaux. Ces deux procédures s'ajoutent en tout cas à une enquête fédérale, là en juillet, sur des pratiques anticoncurrentielles sur l'ensemble des GAFAM.
Et puis pour finir, on reste aux États-Unis avec un nouvel indice boursier qui est élaboré à partir des tweets de Donald Trump, Xavier.
Et oui, c'est Volfefe, comprenez, un indice de volatilité du marché financier sous l'influence des tweets cinglants du président américain. Plus de 10 000 officiels à ce jour, dont 146 identifiés entre 2018 et 2019 par JP Morgan comme ayant une influence sur les marchés financiers avec des mots-clés sensibles, Chine, milliards, produits et dollars. Un index ironique puisque Volfefe fait référence à une coquille de Trump sur Twitter, mais pour JP Morgan en tout cas, il y a, je cite, de solides preuves démontrant que ces tweets faisaient de plus en plus bouger les taux de la dette américaine sur le marché juste après leur publication. Ainsi, JP Morgan invente l'économie amusante.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on peut retrouver votre chronique sur franceculture.fr et en podcast. I want you to be my woman, babe. Black Moon Rising des Black Pumas. Merci beaucoup Nicolas Joudin, Manuela Martini de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Et merci aux techniciens des bureaux de Radio France à Dijon qui ont assuré ce duplex. Demain, près d'un siècle après le New Deal, on se demandera si les politiques de grands travaux peuvent encore relancer la croissance. En attendant, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous l'écho.